Merci d'abord de m'avoir invité à ce séminaire sur la conflictualité sociale et politique. L'angle sous lequel je voudrais l'aborder, c'est celui de la précarisation sociale et de son impact électoral, et en particulier du lien éventuel entre précarisation et vote aux extrêmes, et en particulier vote pour les droites radicales populistes. Alors, je voudrais d'abord juste préciser un peu le cadre théorique, les hypothèses, les données, et puis dans un deuxième temps, montrer les résultats d'un travail que j'ai commencé, en fait, on en parlait l'autre fois, on a commencé à travailler au moment de la crise, au fond, sur les inégalités sociales, qui ont commencé à monter plus tard en France que dans les autres pays de l'OCDE. Et donc, c'est un travail que j'ai commencé, en fait, dans les années juste après la crise, surtout 2012-2017, même si je me centrerai plus sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les élections de 2017. Alors d'abord, le cadre théorique, ce qui m'a beaucoup inspiré dans ce travail sur la précarité, c'est Robert Castel. Et ça rejoint ce que tu vas dire, c'est ses travaux sur l'insécurité sociale, à partir de la fin des Trente Glorieuses, la fin de la société salariale, un processus de désaffiliation, de détricotage des liens sociaux et des solidarités qui accompagnent la montée d'un chômage de masse, la montée de nouvelles formes de travail atypiques, où on a une faible protection sociale, un faible revenu, un contrat à durée limitée, la montée de nouvelles formes de pauvreté qui touchent en particulier des familles maintenant, en particulier les femmes, et les jeunes, les personnes issues de l'immigration, l'assistance aussi, enfin la création du RMI, du RSA, qui va avoir des effets pervers. Ben, bref, c'est ce contexte-là qui introduit une fragmentation du monde du travail et de la société en général. C'est ce travail-là qui m'a inspiré, avec bien sûr, comme toi, l'idée qu'à partir de 2008, tout ça était exacerbé. Mais il n'y a pas que Robert Castel. Il y a les travaux de Olivier Schwartz sur la classe ouvrière, qui avant se définissait uniquement par rapport à ceux d'en haut, et qui maintenant, elle louche, elle regarde aussi à ceux qui sont en dessous, les assister. Je risque de devenir comme eux, je risque de tomber, donc ça change la position dans le monde et donc la vision politique. Tous les travaux, et ça rejoint ce que tu as dit, sur la dualisation et la segmentation du marché du travail, je pense aux travaux de Emmenegger, Pallier, Cilia Ozerman et d'autres sur la dualisation, donc le clivage entre outsiders et insiders, c'est-à-dire des travailleurs qui ont un statut, une protection sociale, un revenu garanti, et ceux qui ne l'ont pas, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et il y a aussi des travaux, si j'arrivais à me relire, ça serait bien, oui, les travaux à l'INSEE, menés par Amossé et Chardon, sur la fin de l'explosion de la classe ouvrière avec la création d'un nouveau groupe, est-ce une classe sociale, qui remet ensemble les ouvriers et les employés non qualifiés. Bref, tous ces facteurs jouent dans le sens d'une fragmentation des classes sociales, et en particulier de la classe ouvrière, et c'est les conséquences électorales de ces processus que je voudrais analyser. Alors, il y a beaucoup de travaux pour analyser ces transformations économiques et sociales, il y en a peu sur les conséquences politiques et électorales. Donc, c'est là-dessus que moi j'ai voulu travailler à partir de 2012, et j'ai essayé de trouver un indicateur de précarité, parce que beaucoup de travaux électoraux travaillent sur les effets de la pauvreté monétaire, sur les effets du chômage, les effets de contrats atypiques, c'est des petits groupes à chaque fois. Moi, il me semblait qu'il y avait besoin d'un indicateur multidimensionnel, un peu comme Amartya Sen travaille sur les capabilities, il y a l'idée que ce n'est pas simplement le revenu, les besoins, il y avait quelque chose de plus général, qui était l'accès à la santé, aux loisirs, à la culture, enfin bref, et à une certaine forme de stabilité. Alors, ce qui m'a aidé là, c'est Philippe Varin, les travaux de Lodenor sur le non-recours au droit, et un indicateur mis au point par les centres d'examen de santé de la Sécurité sociale, qui est le score EPIS. C'est un indicateur de fragilité sociale qu'ils ont mis au point à la fin des années 90 pour mieux percer la fragilité sociale, la vulnérabilité sociale. Et c'est un excellent indicateur, j'ai vérifié, même si ça date des années 98, il continue à cliver très clairement au sein de la société. Alors c'est un indicateur apparemment tout bête, ils ont fait une énorme analyse factorielle avec une centaine de facteurs d'insécurité socio-économique, ils ont retenu les 11 qui marchent le mieux et pondéré ces facteurs en fonction de leur foi dans l'analyse factorielle, donc pour aller vite, et ça se résume à 11 questions, très simples, où il faut répondre par oui et par non, et on a moins de 0,5% de sans réponse. Et c'est des questions toutes bêtes, vous vivez en couple? Vous voyez une assistante, un assistant social? Vous êtes propriétaire de votre logement? Il vous arrive d'avoir des difficultés économiques au milieu du mois? En cas de coup dur, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter pour vous loger? en cas de coup dur, il y a quelqu'un sur qui vous comptez, vous pouvez compter pour vous aider. Est-ce que vous voyez, les 12 derniers mois, vous avez vu quelqu'un hors de vos parents et de vos enfants, de la famille? Est-ce que vous, les 12 derniers mois, vous êtes parti en vacances? Vous avez fait du sport? Vous êtes allé au spectacle? Et avec ça, on a un indicateur, parce qu'il est pondéré, un indicateur métrique qui va de 0 à 100. Vous avez une partie de la population qui est du côté de 2, 3, 4 sur cet indicateur. Et une autre partie sur laquelle on a travaillé souvent avec Céline Braconnier, qui est plutôt du côté de 76 sur 100. Bon. Mais donc, c'était un indicateur très utile pour introduire dans nos études électorales et qui complétait ces autres facteurs socio-économiques. Juste pour vous donner une idée, en 2017, sur la population, un échantillon représentatif de l'électorat inscrit, qui est déjà socialement, culturellement, un peu au-dessus de la moyenne, puisqu'on sait qu'il y a 10% de la population qui ne s'inscrit pas et c'est ceux qui ont le moins de ressources. Et bien, on compte 39% de précaires au sens de la Sécu, puisque pour eux, à partir d'une note de 30 sur 100, on rentre dans la vulnérabilité sociale. C'est énorme, 39%. Et ça montre que c'est un phénomène diffus. Bien sûr, il y a des catégories beaucoup plus précaires que d'autres. Les ouvriers, c'est 53% qui ont la note de 30 ou plus. Les bas revenus, le quintile inférieur, c'est 75%. Les mères célibataires, ça explose. Les chômeurs, enfin bon, il y a des tas de catégories. Mais quand on reprend cet indicateur, il est synthétique. Et en travaillant tout simplement en 5 quintiles par an de croissante précarité, on répartit en 5, hein, des moins précaires, ceux qui vont toujours en vacances, qui font du sport, qui n'ont aucune difficulté matérielle, à ceux qui partent jamais en vacances, qui ne voient personne, et qui n'ont pas de CMU, j'ai oublié, parce qu'il y a aussi l'accès à la santé. C'était à l'époque où ils l'ont fait. Bref, on a un vrai gradient de précarité qui est très utile. Et les données, c'est des données d'enquête électorale, donc des échantillons nationaux représentatifs, post-électoraux, des échantillons de 2000 et quelques, donc de l'électorat inscrit, représentatif de l'électorat inscrit, 2012, élection présidentielle, 2015, les régionales, et 2017, la présidentielle. Alors 2017, c'est les élections les plus intéressantes, hein, parce que on a balayage des vieilles élites, comme tu disais. Je veux dire, ensemble, Hamon les socialistes et Fillon, ils ont 26% des suffrages exprimés. On a une montée aux deux extrêmes de l'échiquier politique et on a le phénomène Macron. Donc, dans tout ça, être précaire, ça donne quoi? C'est la question que j'essaie de poser. Alors, il y a plein d'hypothèses dont on peut s'inspirer. La première, c'est tous les travaux sur la participation politique. Ils nous disent, moins on a de ressources, moins on vote, moins on participe, moins on se mobilise. C'est l'apathie. Depuis les travaux de Lazarsfeld sur les chômeurs de Marienthal. Et c'est toujours vérifié. La deuxième hypothèse, c'est ceux qui font de l'économie politique. Et ils nous disent, si le revenu va baisser trop, le revenu médian va baisser trop en dessous du revenu moyen, et le réflexe, ce sera de dire, moi je suis pour une redistribution plus grande. Donc, ça va favoriser le vote de gauche, théoriquement. Ça, l'économie politique. Mais il y a aussi des collègues d'économie politique qui disent non. En fait, ce qui compte, c'est le retrospective voting. On va juste voter contre les gens au pouvoir. Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. Mais ça nous donne des hypothèses contradictoires. Et la dernière, bien sûr, c'est l'immense bloc de travaux sur les perdants de la mondialisation et sur la manière dont ça favorise la montée des droites extrêmes, avec plus récemment, depuis la crise, la montée dans les pays du sud de l'Europe des gauches extrêmes, Podemos, Syriza, et puis Cinque Stelle, on ne sait pas très bien où le mettre, hein, mais qui est quand même plus à gauche que la Ligue du Nord. Bref, voilà le point de départ. Alors, les résultats. Moi, je vais la faire simple, hein, parce que sinon on y sera encore dans 2 jours. Quelle que soit l'élection, plus on a un score élevé de précarité, moins on vote. Donc ça, c'est vraiment toujours vrai, et les chiffres sont absolument massifs. Si je me contente de prendre 2017, si on se contente de répartir les gens du premier quintile au cinquième quintile par niveau croissant de précarité, si on prend juste ceux qui s'abstiennent ou ne disent pas pour qui ils ont voté, on passe de 5 à 29% d'abstention au premier tour, de 10 à 36% d'abstention au second tour, donc 36% chez les plus précaires. Et si on y ajoute tous ceux qui n'ont pas donné un vote, donc qui n'ont pas exprimé un vote, donc qui sont inaudibles, soit parce qu'ils refusent de le dire dans l'enquête, soit parce qu'ils disent qu'ils ont voté blanc et nul, mais souvent on dit ça parce que c'est plus chic que dire que je ne suis pas allé voter. Là, on se retrouve devant, au deuxième tour, on se retrouve devant 52% des plus précaires, qui n'ont pas exprimé une intention de vote. Et si on prend un indicateur que l'INSEE aime beaucoup, qui est les abstentionnistes constants, c'est pas premier tour, ceux qui n'ont voté ni au premier ni au deuxième tour, l'INSEE, qui a les moyens d'aller vérifier sur les listes d'émargement, estime à 15, je crois, de 15% de l'électorat inscrit, la proportion de gens qui n'ont voté ni au premier ni au deuxième tour de la présidentielle. Dans notre enquête, avec nos estimations, on trouve 13%. Eh bien, avec nos quintiles de précarité, ça passe de 2 dans le premier quintile à 22% d'abstentionnistes constants. Autrement dit, on avait fait un livre avec Céline Braconnier à partir d'une enquête Cali et Canty sur les personnes en situation de grande précarité et l'effet du score EPIS en 2012. Ces gens-là sont inaudibles. Une bonne partie des gens les plus précaires dans la société, personne ne les entend, et d'autant plus qu'ils sont les plus nombreux à ne même pas être inscrits. Donc n'oublions pas, quand on raisonne sur les sondages et sur les données électorales, qu'il y a dans certains cas plus de la moitié de la population qui n'exprime pas son choix, qui ne peut donc être entendu. Et ça, ça change un peu. Et bien sûr, j'ai vérifié en faisant des analyses statistiques, pour vérifier en fonction de l'âge, du diplôme, du revenu, de la profession et des attitudes politiques. Et même en tenant compte de tout ça, on a de 2% d'abstentionnistes constants chez les moins précaires à 22% dans le modèle théorique. Donc, il se passe vraiment quelque chose à ce niveau-là, il ne faut pas les oublier. Maintenant, si on regarde pour qui ils votent, quand ils votent. Alors, il y a deux manières de travailler. La plupart du temps, on travaille par rapport aux exprimés, parce que c'est ça qui compte dans une élection. C'est ceux qui sont allés voter, pour qui ils ont voté. C'est ça qui permet de choisir ceux qui nous gouvernent. Mais il est très important de nuancer ces chiffres en prenant en compte la taille de l'abstention, donc de travailler par rapport aux inscrits, de considérer comme un choix politique parmi d'autres le fait de n'être pas allé voter ou d'avoir voté blanc, et Dieu sait qu'il y a eu des votes blancs dans ce second tour de l'élection présidentielle de 2017. Et ça donne une image plus réel des phénomènes. Quand on nous dit « les ouvriers votent Marine Le Pen », ben, quand vous tenez compte des ouvriers qui ne votent pas, eh ben, vous relativisez salement les proportions. Donc, juste pour aller assez vite, là, j'ai fait vraiment un travail systématique sur le premier tour, le deuxième tour, aux exprimés, aux inscrits, avec uniquement des variables sociodémographiques, et en plus en rajoutant les attitudes qui ont compté dans cette élection, c'est-à-dire toujours le positionnement sur l'échelle gauche-droite, mais les attitudes à l'égard de l'Europe, des immigrés, le libéralisme socioculturel, c'est-à-dire côté Fillon, quoi, mariage pour tous et morale sexuelle, et le libéralisme économique, toutes ces valeurs qui étaient au cœur de l'élection. Donc c'est important pour tester vraiment l'importance de la précarité comme une variable prédictive du comportement électoral. Alors là encore, pour aller très vite, c'est intéressant parce qu'en 2012, plus on était précaire, plus on votait soit pour Hollande, soit un petit peu pour Marine Le Pen, mais quand on contrôlait, c'était véritablement la précarité entraînait un vote anti-Sarko, le président des riches, et donc un vote par défaut pour Hollande. Et quand on regardait de près le vote Marine Le Pen, ce n'était pas les plus précaires qui votaient pour elle, c'est ceux qui avaient peur de tomber dans la précarité. Et ce n'était pas très statistiquement significatif quand on contrôlait avec tous les facteurs. Donc, en 2012, la précarité, elle incline à gauche. Mais en 2015, à ma grande surprise, déjà au régional, même si la moitié des gens ne sont pas allés voter, la précarité incline contre la gauche. Elle incline vers Marine Le Pen, cette fois-ci, quand on vote. Et on ne peut pas se fier à des élections comme les régionales. Donc, j'étais très, très intéressée des résultats des élections de 2017. Et là, c'est vraiment intéressant parce que, effectivement, quand on se contente de regarder les chiffres bruts comme ça, il y a un effet massif pro-Marine Le Pen, et dans une moindre mesure, il y a un petit effet Mélenchon. Il y a un petit effet monté aux extrêmes. Selon qu'on est sur le premier ou le dernier quintile de précarité, donc du pas du tout à très précaire, le vote Mélenchon au premier tour passe de 16 à 27% aux exprimés, et au deuxième tour, le vote Marine Le Pen passe de 11 à 36%, ce qui n'est pas rien.
Est-ce que c'est quand il y a 11 millions de votes pour Marine Le Pen
l'élection? Non, pas encore. Là, je suis au premier tour. Il n'y a pas encore 11 millions de votes. Quand on se place au deuxième tour, quand il y a un gros tiers qui vote pour Marine Le Pen et qui a 11 millions de suffrages exprimés, on passe de 19% de vote Marine Le Pen dans le quintile des moins précaires à 53% dans celui des plus précaires. Donc quand on regarde ça, on est véritablement affolé. Et c'est là qu'il faut se dire, ces chiffres, ils sont trompeurs. Parce que d'abord, il y a tous ceux qui ne sont pas allés voter, les abstentionnistes. Et puis, il y a le fait qu'on ne peut pas considérer que ces chiffres valent quelque chose avant d'avoir contrôlé l'effet des autres variables. Et quand je contrôle en mettant dans le modèle le revenu, le diplôme, la pratique religieuse, l'origine sociale, enfin l'origine des parents ethniques, dans un premier temps, et puis que je rajoute les attitudes dans un autre, parce que les attitudes comptent, le socio-économique n'agit pas mécaniquement sur les votes. On peut être dans le même niveau de précarité, mais il y en a un qui sera pro-immigré et l'autre qui sera anti-immigré, et ça, ça compte encore plus. Donc, quand je fais cette cuisine statistique, si on se contente d'entrer les variables socio-démographiques, il persiste un effet de la précarité sur un vote un peu plus fort pour Jean-Luc Mélenchon d'un côté et surtout Marine Le Pen au premier tour et très clairement au second tour. Dès qu'on introduit les attitudes politiques, ce n'est plus vrai. Autrement dit, il ne faut pas oublier les attitudes. Il ne faut pas oublier que le monde des précaires, ce n'est pas un monde homogène. Et que donc, il y a des divisions internes qui font que quand on introduit les attitudes, eh bien, au premier comme au deuxième, enfin surtout au premier tour, il n'y a plus d'effet de la précarité sur le vote Marine Le Pen. Donc il faut faire très attention. Ça, c'est, je me contente d'introduire les attitudes dans mon modèle qui ont le mérite de cliver les groupes, qu'ils soient très précaires, pas du tout ou un peu. Et maintenant, si je travaille par rapport aux inscrits, en considérant comme un choix le fait de ne pas avoir exprimé une intention de vote, donc soit de ne pas être allé voter, soit d'avoir voté blanc et nul. En fait, je pourrais enlever les blancs et nuls, ça reviendrait exactement au même. Quand on ne joue que sur les variables socio-démographiques, il y a un faible effet pro-Mélenchon et pro-Marine Le Pen. Mais dès qu'on introduit les attitudes, il n'y a plus aucun effet du vote, enfin de la précarité sur le vote Marine Le Pen. Et surtout, on voit qu'il y a un effet négatif de la précarité sur le vote Mélenchon. En fait, ceux qui votent Mélenchon, ce n'est pas les plus pauvres quand ils vont voter. C'est des gens qui sont ce qu'on appellerait le lower middle, upper lower ou lower middle. Mais c'est intéressant parce que ça n'apparaît pas quand on se contente de faire des moyennes sur l'effet de la précarité. Quand on va regarder un peu dans les coins, eh bien, on voit aussi que Mélenchon il réussit mieux chez ceux qui sont dans le quintile numéro 4 des revenus. Donc, ce n'est pas les plus pauvres. Donc, il y a vraiment quelque chose.
Je peux demander, quand tu dis attitude politique, par quoi, tu veux dire quoi?
C'est celle que j'ai dite tout à l'heure, c'est-à-dire les cinq échelles. Un, le positionnement sur l'échelle gauche-droite, c'est des échelles que j'ai harmonisées pour qu'elles soient toutes, qu'elles aillent toutes de 0 à 100, qu'elles soient homogènes et qu'on puisse donc les normer. Donc, il y a positionnement sur l'échelle gauche-droite, positionnement sur une échelle de libéralisme économique, positionnement sur une échelle de libéralisme culturel, positionnement sur une échelle d'attitude ethnocentrique et anti-immigrée, et j'en ai oublié un, positionnement sur l'échelle d'attitude anti-européenne. Et ce qui a compté le plus dans cette élection, c'est les attitudes anti-européennes, et pour Marine Le Pen, les attitudes anti-immigrés, et pour Mélenchon, ce qui a joué très fort, c'est l'anti-libéralisme économique. Et donc, c'est ça qui joue. C'est-à-dire, on ne peut pas dire les précaires votent comme ceci ou les ouvriers votent comme cela. Il y a des divisions internes. Et je voudrais terminer sur cette division interne aux ouvriers parce qu'elle est très intéressante. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec des chiffres, mais je vais juste peut-être prendre Macron. Si j'arrivais à me relire, ça serait bien. Par exemple, oui, faisons simple. Si on prend en pourcentage aux inscrits au deuxième tour de l'élection présidentielle, celle où Marine Le Pen va recueillir 11 millions des suffrages exprimés, le tour décisif, et si je me contente de diviser le bloc des ouvriers en deux, les précaires et les non-précaires, il y a 53% d'ouvriers précaires avec une note égale ou supérieure à 30, les autres sont non-précaires. Le vote pour Marine Le Pen par rapport aux inscrits, il passe de 29 à 31 selon qu'on est non précaire ou précaire chez les ouvriers au deuxième tour. Le vote Macron passe de 40 à 23. Autrement dit, on peut être ouvrier et voter pour Macron quand on a le choix entre Macron et Marine Le Pen. Et enfin, l'abstention, elle passe de 32 à 47. Autrement dit, dans ce groupe très particulier des ouvriers, il y a la même fragmentation que dans le reste de la société. Ça n'a pas de sens de dire les ouvriers votent pour Marine Le Pen. Non. ça dépend des ouvriers. Ce sont plus des ouvriers précaires, et là, ce qui arrive très largement en tête de leur choix, c'est le non-vote. Tout ça pour nuancer un petit peu les affirmations fracassantes de Marine Le Pen qui recueille le vote des ouvriers, l'idée que les ouvriers formeraient un bloc homogène. Et je voudrais juste, si j'arrive à me relire, conclure sur quelques points. D'abord, donc, ce qui me semble important, c'est l'offre politique, ce que tu disais tout à l'heure, parce que la précarité n'a pas le même effet en 2012, quand on a Sarkozy, et que Hollande, on va voter pour lui, et dans les entretiens qu'on a fait auprès de personnes en grande précarité, elle disait, bouf, Hollande, c'est pas terrible, hein. Il y en avait même une qui nous disait, tenez, comment il s'appelle déjà le mari de Ségolène? Mais il y avait l'idée, la gauche, c'est quand même moins pire. La gauche, c'est le cœur, on me disait. La gauche, c'est quand même la gauche qui défend le social. Donc, en 2012, on croit encore à la gauche. On peut être précaire et voter pour François Hollande. En 2015, c'est déjà fini. Et en 2017, ben, il n'est pas question de voter Macron, mais il y en a quand même qui, entre Macron et Marine Le Pen, vont choisir Macron. Mais donc, l'offre politique est fondamentale. Il n'y a pas un vote par essence des précaires et des plus pauvres pour la gauche ou pour l'extrême-gauche. C'est faux. Ils peuvent voter extrême-droite, ils peuvent voter extrême-gauche, et ils peuvent, très largement, choisir de ne pas aller voter, parce que ça, c'est le deuxième résultat clé, c'est l'abstention qui est vraiment importante. Et le vrai problème pour la gauche, c'est de remobiliser, c'est de tenir compte de ces gens-là qui sont inaudibles et qui ne fréquentent plus les urnes. Donc ça, c'est le deuxième point important. Imaginez que chez les plus précaires, on arrive à peu près la moitié de gens qui ne vont pas voter. Et la troisième chose, c'est de bien tenir compte de la diversité interne de ces différents groupes. Et on peut le voir quand on fait une analyse statistique, qui est une analyse en composante principale, en prenant tous les indicateurs d'insécurité, les 11 questions du score EPIS, mais aussi le fait d'être mère célibataire, d'avoir un contrat à durée limitée, d'avoir pas fait beaucoup d'études, tout ce qui n'est pas pris en compte par le score EPIS, d'être au chômage. Bon, on a un premier facteur de précarité où tout ça joue, c'est très joli. Mais on a un deuxième facteur qui apparaît. Et là, c'est des personnes qui sont matériellement en difficulté, mais qui ne sont pas isolées socialement, qui ne sont pas isolées culturellement, qui voient leur famille. Et ces deux facteurs correspondent à des types d'électeurs assez différents. Sur le premier facteur, on a des personnes âgées, peu diplômées, les plus enclines à s'abstenir, les plus enclines aussi à voter quand elles votent pour Marine Le Pen. Sur le deuxième facteur, on a des gens plus jeunes, diplômés, qui votent plus souvent et qui ont plus tendance, qui ne voteront jamais pour Marine Le Pen, mais qui voteront pour Jean-Luc Mélenchon. Autrement dit, il faut bien voir la diversité interne et savoir où la gauche peut trouver des soutiens, d'une part, et savoir comment remobiliser ses électeurs inaudibles, d'autre part.
Avancez pas beaucoup en disant ils ne voteront pas pour ou ils voteront pour.
Ah non, ça, peut-être qu'ils voteront demain. Ce qui est très intéressant, c'est que chaque élection est différente et que, en fait, l'INSEE nous montre très bien, les abstentionnistes constants, permanents, n'existent pas. Eux se contentent de mesurer à 2 tours d'élection ou à 4 tours d'élection ceux qui ne votent pas. Mais en fait, ce qui fait la norme aujourd'hui, c'est l'abstentionnisme intermittent. On vote, c'est comme quand ça vaut la peine d'aller voter. Quand on pense donc ce qu'il faut, ce qui est urgent, c'est de leur redonner le sentiment que ça vaut la peine d'aller voter. Et nous, quand on a fait, avec Céline Bracconi, on a fait ce livre sur les inaudibles en 2012. D'une part, on a fait 100 d'entretiens auprès de personnes en situation de grande précarité, en passant par les associations Petits Frères des Pauvres, Croix-Rouge, Hosanna, nos centres sociaux. Donc dans 3 villes, Paris, Seine-Saint-Denis, Grenoble et Bordeaux. On a fait à peu près 120 entretiens. En allant dans les centres d'accueil de jour et en allant dans à la distribution des colis alimentaires. Et là, on a fait des entretiens extraordinaires. C'était avant 2012. Et les gens, nous disaient, mais personne ne vous parlera jamais, c'est pas vrai. Ces personnes-là étaient vraiment contentes qu'on aille les interroger. Ils nous disaient, personne ne vient jamais nous voir. Et ils avaient des choses à dire. C'est pas parce qu'elles votent pas qu'elles s'intéressent pas à la politique. Elles ont des préférences politiques. Mais très souvent, il y a longtemps qu'elles ne sont pas inscrites ou elles sont inscrites ailleurs, elles n'ont pas les moyens d'aller se refaire les papiers. Mais elles ont des choses à dire et certaines nous disaient véritablement ce que les candidats pourraient faire. Donc ça, c'était fascinant. Donc on a On a tous travaillé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis revenue tellement sur cette... Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à vous parler des inaudibles, mais c'est vraiment une enquête qui nous a marqués. Et je ne sais pas pourquoi je voulais vous parler des inaudibles. C'était quelque chose qui nous donnait l'impression... Enfin, je ne sais plus, ça va me revenir, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ces gens-là, ils ont quelque chose à dire et ça vaut la peine d'aller les interroger. Il n'y a pas que les entretiens par sondage qui nous apprennent des choses et qui permettent de généraliser. Mais là, en face à face, ces personnes-là, elles ont vraiment quelque chose à nous dire. Donc, ça vaut la peine d'aller les chercher.
Luna, est-ce que tu as demandé aussi une question sur leurs activités sociopolitiques en dehors de
Botan? Ah oui, mais alors, quand tu prends les personnes qu'on a vues du côté des petits frères des pauvres, du côté, enfin, moi j'avais travaillé avec Céline à Paris, donc petits frères des pauvres et Croix-Rouge, ils ne se mobilisent pas. Quand ils sont allés aux manifestations, c'était parce que des gens de l'association y étaient allés, mais d'eux-mêmes, ils sont assez déconnectés. Ils suivent les nouvelles, ils prennent des journaux gratuits, ils vont en bibliothèque parfois, mais... Ils ne se mobilisent pas, ils ne sont pas organisés. Il faut déjà un certain capital culturel ou avoir enfin, une série de hasards de la vie. Il y a des gens qui se battent, issus de la précarité, on en a rencontré énormément. Il y a des films extraordinaires qui ont été faits, il y a des tas d'expériences. Mais ce qu'on a vu, non, c'était très très loin. Donc ça ne marchait pas. Et alors, malheureusement, en 2012, et très souvent, j'ai du mal à faire passer mes batteries de questions sur les mouvements sociaux. Mais chaque fois qu'on a pu... Il n'y avait rien, c'était pas... Non, le premier réflexe, c'est un peu les chômeurs de Marienthal, c'est-à-dire on perd confiance en soi, on se retire sur soi-même, on a beaucoup de mal déjà à assurer la subsistance au jour le jour. Donc ces gens-là, beaucoup, il y en a qui se mobilisent, mais c'est une minorité, et chez ceux qu'on a vus, il y en avait très peu, il y en avait, et ceux qui le faisaient, c'était ceux qui avaient reçu... qui avait eu une socialisation militante avant. Parce qu'il faut bien voir que les précaires, ça n'existe pas. Il n'y a pas de classe des précaires. Les gens, ils ont eu une vie avant. Et donc, on en a de gauche, de droite, des gaullistes, des anarchistes, des monarchistes, des lepénistes. Il y a tout ce qu'on veut chez les précaires. Ils nous disent tous, mais on est tombé dans la précarité. Je veux dire, un jour, ma femme est partie. Alors, j'ai commencé à boire. Et puis, j'ai perdu mon travail. Puis mes enfants, ils m'ont aidé une ou deux fois, puis à la fin, ils en ont eu marre. Alors je me suis retrouvée à la rue. Et ceux qui nous ont sortis de la rue, c'est les petits frères des pauvres. Bon, ça, c'est un cas type, mais donc, ils ont une socialisation avant. Et ceux qui avaient une socialisation communiste, ou ceux qui avaient une socialisation gaulliste, mais ça dure. Et ceux-là étaient plus tentés à aller écouter un meeting de Mélenchon en Seine-Saint-Denis, ou des choses de ce genre. Bon. Mais l'immense majorité, non. Voilà. C'est pas les mouvements sociaux, non. C'est pas vraiment leur truc. C'est élitiste, les mouvements sociaux. Ouais. C'est presque aussi élitiste que le vote. Sinon plus. Et ça, c'est un autre débat.
Les gens qui ne vont pas voter, vous faites une analyse des raisons qu'ils ont ou c'est pas possible ou c'est pas...
Alors, on peut le reconstruire indirectement à travers les questions de sondage, parce qu'il y a des questions sur l'intérêt pour la politique, sur l'image qu'on a des candidats, sur le temps qu'on a passé à suivre la campagne. Donc on voit bien que ce sont des personnes qui font moins confiance à la classe politique, qui n'ont pas une image positive des candidats, et qui ne citent moins que les autres, même s'ils en citent, mais citent moins que les autres des partis et des mouvements dont elles se sentent proches, dont on sent qu'il y a une très grande cohérence dans leur univers. C'est pas par hasard. Et l'intérêt pour la politique est bien sûr la variable clé. C'est quelque chose qui est trop loin. Ils sont trop loin de mes préoccupations. Les hommes politiques se préoccupent pas de ce que pensent les gens comme moi. Et on peut aller beaucoup plus loin quand on allait auprès de ces grands précaires qu'on avait interrogés. Eux nous expliquaient. Je veux dire, soit ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas voté, certains étaient passés par la case prison et donc ils ne savaient pas s'ils avaient le droit de voter de nouveau, ils n'étaient pas allés faire les paperasses. Et puis ils disaient, mais c'est compliqué, moi, il faudrait que je traverse tout le département pour aller faire la démarche à la mairie. J'ai pas le temps de faire ça, puis j'ai pas les moyens de le faire. Donc beaucoup, il suffirait qu'on les prenne par la main pour les aider à faire les papiers et ils iraient voter parce qu'ils ont des idées politiques. Mais le chômage, la précarité, c'est une lutte au quotidien pour survivre, ces gens-là. C'est le miroir grossissant, c'est même pas le quintile supérieur. C'est le décile, c'est le centile supérieur de la précarité, les gens qu'on a interrogés. Donc ben là, c'est vraiment difficile. Sauf ceux qui ont gardé une fibre militante, et il y en a. J'ai rencontré dans ces entretiens quelqu'un qui avait un look de cadre, qui faisait de l'alphabétisation à Nanterre, il connaissait mieux la politique que moi. Il était anard de formation, et bon, lui, il votait. Il disait, il faut aller voter. Mais c'était l'exception qui confirmait la règle. Donc, il n'y a pas un milieu. Il y a tout un débat, d'ailleurs, c'est intéressant, en Grande-Bretagne, avec Guy Standing, qui dit qu'il y a... Est-ce que c'est la nouvelle classe des précaires ou non, loin de là? Parce que c'est un groupe totalement hétérogène. Voilà. Mais je leur ai demandé leur raison de ne pas aller voter. Ils ont des bonnes raisons de ne pas aller voter. C'est que la classe politique ne leur donne pas de bonnes raisons de penser que ça servirait à quelque chose. Vieux débat. Donc il y a une place à prendre.
Après, moi j'ai une question, pas tant sur la politisation, enfin sur le vote des précaires, sur leur rapport au vote, que par rapport vraiment aux précaires, c'est-à-dire est-ce que leur nombre évolue au fur et à mesure des années, et quels sont, parce que vous avez expliqué qu'il y a une grande diversité au sein de ces précaires-là, quelles sont les franges qui augmentent plus, ou quel est le groupe qui a tendance à devenir le groupe majoritaire au sein de ces précaires, ou est-ce que
le groupe,
il y a des tendances en tout cas?
Non, c'est difficile de mesurer, ça dépend des élections, parce que par exemple quand vous avez des élections présidentielles, c'est l'élection la plus mobilisatrice. Donc il y aura plus de catégories populaires et en fait plus de précaires qui iront voter, ce qui est paradoxal. Donc j'aurai une hausse du taux de précaires, mais pour une raison simple, c'est que c'est la seule et dernière élection qui reste si mobilisatrice. Comparée à d'autres pays européens, 20% d'abstention, c'est pas énorme. 22. Donc il y a un effet paradoxal qui fait que j'aurai plus de précaires parce que c'est une élection qui mobilise plus les précaires et les classes populaires. Alors si on regarde l'ensemble des indicateurs de pauvreté, précarité, chômage, on a eu un pic après 2008, puis c'est redescendu. Le taux de chômage est redescendu. Ce qui se développe, c'est les contrats atypiques, mais ça reste une minorité, quoi. C'est quelque chose. C'est-à-dire, on sait que tous les jeunes, toutes les personnes qui vont être prises maintenant, ont des chances d'être prises sur des contrats à durée limitée. Mais ils représentent la minorité des travailleurs salariés. Ça doit être de l'ordre de 12% ou quelque chose du genre. Donc, il ne faut pas exagérer non plus l'importance du travail atypique. C'est une fraction du paysage des précaires. Je dirais que ces jeunes diplômés, genre intermittents du spectacle, ben il y en a de plus en plus de jeunes, mais c'est très difficile de vous dire il y a un groupe qui domine, parce que c'est un phénomène tellement diffus. Par exemple, vous avez une montée du poids des jeunes chez les précaires, mais vous avez aussi maintenant une remontée de la précarité dans la tranche des 50-64 ans, qui est très claire. Il y a un moment où c'était effectivement les retraités, les salariés pour qui ça allait mieux. Et ben, entre 50 et 64 ans, au petit frère des pauvres, on voit une remontée absolument massive de gens qui n'ont rien, ils ne savent pas comment ils vont faire avant d'avoir la retraite. À la retraite, ça commence à aller, mais il faut travailler plus longtemps pour avoir la retraite, ça va être plus difficile. Donc vous avez les deux bouts, donc c'est très compliqué. J'aurais tendance à dire qu'il y a à la fois des jeunes qui se retrouvent dans une situation difficile, mais ça bouge. Alors celles pour qui ça ne bouge pas, mais il n'y en a pas de plus en plus, c'est les mères célibataires. Elles sont vraiment dans une situation hyper difficile. Mais c'est très compliqué, tellement ce paysage de la précarité est changeant. Et c'est évident qu'il y a un clivage qui est très clair entre des précaires intello. Je pense au travail qu'avait fait une de mes étudiantes, son nom m'échappe, mais il va me revenir, Florence Joshua, qui avait fait un travail excellent. Joshua. Oui, de la famille des Joshua. Donc Florence qui avait fait un travail sur le profil de ceux qui ont soutenu le NPA, Besancenot, etc. On voit clairement que ce sont des jeunes, plutôt des jeunes employés, des gens qui sont diplômés, des gens qui sont précaires, mais qui n'ont rien à voir avec les personnes âgées que je côtoie au petit frère des pauvres. C'est deux mondes. Et donc, quand on dit les précaires, il faut faire très attention, parce qu'on a des univers extraordinairement disparates. Et c'est encore un autre monde que les femmes. On voit clairement qu'il y a de plus en plus de femmes aux petits frères des pauvres. Et c'est encore autre chose. Ce sont des femmes, souvent de femmes issues de milieux même bourges ou semi-bourges, mais qui n'avaient pas prévu, le jour où le mari meurt, eh ben, elles n'arrivent plus à payer le logement. Elles n'ont jamais su s'occuper des paperasses, c'était le mari. Et elles se retrouvent à la rue. Donc les petits frères des pauvres sont un miroir grossissant assez intéressant parce qu'ils prennent les gens à partir de 50 ans. Là, on a travaillé, j'ai un autre article en cours, on a pu travailler sur les dossiers des personnes qui prennent en charge. Et c'est absolument terrible. J'ai 357 dossiers qu'on a pu regarder de A à Z, anonymisés bien sûr, mais qui vous montrent qu'il y a l'entrée dans la précarité a changé, qu'elle vient un peu plus jeune, pour les petits frères des pauvres, tout est relatif, puisque c'est la tranche des 50-64, mais que l'image classique des vieilles personnes dont s'occupent les petits frères des pauvres à domicile, elle a changé. Maintenant, ils travaillent de plus en plus sur des personnes en situation de grande précarité, et où il y a des expats qui n'ont pas les clés du seul en France, il y a des personnes issues de l'immigration, qui ne sont pas majoritaires, bien sûr, contrairement à ce qu'on raconte, mais dont le poids est beaucoup plus fort que dans la population en général. Donc, le monde de la précarité est en train d'évoluer de tous les côtés. Et je dirais qu'il y a des tas de manières différentes d'être précaire et que chacun de ces groupes mériterait une analyse à part entière.